Bonjour et bienvenue sur Retour en Air. Aujourd'hui, Charles nous en apprendra un peu plus sur la notion de race, un terme qui fait polémique et qui est très ambigu. Ensuite, vous allez découvrir Aventure et Volcan avec Maëva et Lana dans une interview avec Mathieu Morelière. Pour finir, Dimitri, dans sa chronique D, nous introduira les carburants de synthèse. Retour en Air numéro 7, c'est parti. Comme prévu, chers auditeurs, nous passons au sujet pointilleux de ce magazine. Ne vous enfuyez pas, chers auditeurs. Charles a des pincettes et sa chronique est très intéressante.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, promis, je vous offre une chronique de sa race. Non, ne partez pas, chers auditeurs. Pour les plus de 20 ans, je vous parle en un temps qu'il se pourrait que vous ne puissiez pas connaître. J'entends par là le temps Y. Rien à voir avec temps X d'Igor et Grishka Bogdanov, pour qui j'ai une pensée toute particulière, mais bien le temps de la génération Y et de ses codes. Sa race fait ici office de superlatif absolu, synonyme d'excellente tonitruante. Par contre, la race au sens discrimination raciale, il se pourrait bien que des jeunes de plus de 20 ans, déjà en leur temps, la connaissaient, voire la subissaient et la subissent encore. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Qu'est-ce que la race ? Et n'y allons pas par quatre chemins. La race humaine, j'entends, a-t-elle un sens ? Au sens animal, végétal et même bactérien, la race est un taxon, c'est-à-dire un niveau hiérarchique de la classification du vivant. D'un point de vue moral, nous pourrions nous arrêter là. À quoi bon parler de classification de l'être humain ? Mais ce n'est pas si simple. Classer le vivant est une pratique scientifique importante. L'humain fait partie du règne animal, de l'embranchement des vertébrés, de la classe des mammifères, de l'ordre des primates, de la famille des hominidés, du genre Homo et de l'espèce Homo sapiens. Et cela ne pose aucun problème. Mais voilà, scientifiquement, l'espèce est le dernier taxon, qui est déterminé précisément par l'interfécondité. Quel besoin y aurait-il, d'un point de vue taxonomique, de créer des groupes au sein d'une espèce ? Eh bien, il existe un contexte dans lequel les sous-espèces, les races, sont communément utilisées, les animaux domestiques. On parle bien de races de vaches, de poules, de chats, de chiens. Ceci sans aucune contradiction avec notre précédent propos, le taxon de race n'a pas de consensus scientifique. C'est un rang subjectif qui s'appuie sur des caractères morphologiques et physiologiques tels que la taille, la couleur, le caractère. Ce qui détermine une race chez les animaux domestiques est en fait une individualisation exercée par une pression de sélection artificielle créée par l'homme dans un but commercial. Alors comment un taxon non scientifique, utilisé principalement pour les animaux domestiques, en est-il arrivé à désigner des sous-espèces chez l'Homo sapiens ? L'origine de la pensée entourant le terme de race, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est difficile à dater, ni même à attribuer, à l'image de l'étymologie même du terme race. Il pourrait provenir du bas latin ratio, raison, manière, qui se transforme en italien en razza, potentiellement compris par les oreilles étrangères par raça, donnant en français race. Certains linguistes lui préfèrent comme parent le latin radix, racine. Enfin, il est tout aussi probable que le terme ait pour ancêtre l'arabe raz, tête, un comble à la vue de la stigmatisation que ce peuple subit. En soi, l'idée derrière le racisme n'a pas attendu la racine du concept de race. Au 1er siècle de notre ère, l'historien Tacite décrivait les Germains comme sales et léthargiques, faibles et moins sensibles. La désignation par la couleur de la peau est encore plus ancienne. Dès 1350 avant notre ère, les Égyptiens attribuaient aux populations des différences physiques tranchées, sous forme de quatre couleurs, rouge pour les Égyptiens, jaune pour les populations de l'Est, blanc pour les populations nordiques et noir pour les populations africaines du Sud. Les prétendants à la place de précurseurs de la notion moderne de race sont nombreux. Pour ne citer que, François Bernier, en 1684, écrit l'article « Nouvelle division de la Terre par les différentes espèces ou races d'hommes qui l'habitent », publié dans le Journal des Savants. Georges-Louis Leclerc, plus connu sous son nom « Le Comte de Buffon », dans son œuvre « Histoire naturelle », a écrit le livre « Variété dans l'espèce humaine », publié en 1749, où il tente lui aussi une division de l'espèce humaine. Mais pour ces deux naturalistes, même si la notion de race est explicitement citée, celle-ci n'est pas figée. Il n'existe alors pas de sous-espèces fixes, mais des types que l'on peut décrire à l'instant T, nier la race ne voulant pas dire nier les différences. Mais dès 1735, Carl von Linné propose son Systema Naturae, qui préfigure le système de classification scientifique moderne. Mais à partir de 1758, Linné établit une classification de l'Homo sapiens à l'origine de l'homme blanc en Europe, noir en Afrique, jaune en Asie et rouge en Amérique. Et si Linné n'utilise pas le terme de race, mais variété, l'union étroite établie entre physique et jugement de valeur va au-delà de la caractérisation de race logique due au climat ou aux conditions géographiques. Elle inclut des caractéristiques subjectives au peuple et de manière figée. Toutes les caractéristiques de la notion moderne de race sont présentes. Elle peut par conséquent être attribuée à Linné. Elle a par la suite été développée au cours du XIXe siècle d'Amédée Thierry à Renan en passant par Michelet, en faisant ainsi une théorie de hiérarchisation au sommet de laquelle se trouve la race blanche, voire la race aryenne, telle que consignée entre 1853 et 1855 par Arthur de Gobineau dans son article « Essai sur l'inégalité des races humaines ». Cet écrit, qui passera presque inaperçu en son temps, deviendra une référence pour le régime nazi. Toujours au XIXe, avec Paul Broca, le racisme prend une dimension scientifique avec la création de l'anthropologie, la science des races humaines. La race est définie par des caractères physiques, forme du crâne, texture, couleur des cheveux, couleur de la peau, etc. Elle est aussi associée à des caractères intellectuels, psychologiques et moraux spécifiques, l'ensemble de ces caractères se transmettant par l'hérédité. La science cherche des critères objectifs. On crée la craniologie, le français Louis-Jean-Marie Daubenton y applique les principes géométriques. Le hollandais Petrus Camper crée le célèbre angle facial. En 1900, Lapsteiner découvre le système sanguin ABO. On y cherche jusqu'en 1926 une preuve de l'hérédité raciale sous l'hypothèse que le sang, c'est la race. Cette science n'est pas circonscrite à de petits groupes racistes, mais se diffuse au travers des revues scientifiques, des congrès internationaux et des ouvrages scolaires. Cette culture raciale fait face à l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste. La notion de race prend une tournure dérangeante. La science s'en détourne au profit de l'étude des populations. Le séquençage humain, qui prend fin en 2004 par le consortium international public, réveille les vieux démons de certains et de vains espoirs pour d'autres. En 2008, Bertrand Jordan, dans son journal « L'humanité au pluriel, la génétique et les questions de race » démontre qu'il est possible de séparer des groupes ethniques en se focalisant sur certains SNPs, des variations mineures du génome, ce qui ne sous-entend bien entendu aucune hiérarchie. De plus, Jordan montre que la différence génétique au sein d'un même groupe est plus grande qu'entre les groupes eux-mêmes. En 2018, David Reich, dans son livre « Who we are and how we got here » montre qu'il est possible de retracer précisément l'origine de chaque individu en analysant son code génétique. Les techniques d'étude des gènes s'étant affinées de manière extraordinaire. Cette étude, qui ne pose elle non plus les bases d'aucune hiérarchie, mais simplement de notions d'origine, semble ouvrir, sous couvert de l'avancée scientifique, une véritable boîte de Pandore. L'obstination à démontrer l'existence effective des races humaines et par là, de race inférieure, a cherché à légitimer l'esclavage puis la colonisation. Le point culminant de cette recherche de légitimité à outrance qu'est la Shoah a créé une prise de conscience qui a mené un rejet presque total de la notion de hiérarchisation, allant jusqu'à effacer de la conscience collective la pensée pré-Seconde Guerre mondiale. Le 12 juillet 2018 est actée la suppression du terme « race » du premier article de la Constitution. Mais effacer le terme de race efface-t-elle le racisme ? Patrick Simon, chercheur à l'INED, questionne le risque de le nier en niant les discriminations qui ne pourraient exister puisque les races n'existent pas et qu'il n'y a plus de mots pour en parler. Un effet novlangue. Il se pourrait donc qu'il nous faille un mot, M-O-T, pour lutter contre un mot, M-A-U-X. Si c'est ainsi, soit, usons du terme de race pour mettre un terme à la notion de race. Dans tous les cas, personne dans la vie ne choisit sa couleur, l'important c'est d'écouter son cœur. À bon auditeur, à la prochaine fois sur nos bonnes ondes.
Merci beaucoup Charles. Maintenant, continuons en compagnie de Maëva, Lana et Mathieu Morelière.
Bonjour.
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 Pouvez-vous nous présenter ce qu'est Aventure et Volcan et d'où est venu le concept ?
Oui, c'est avec grand plaisir. Donc, Aventure et Volcan, c'est à la base une histoire de famille, de passionnés, la famille de Saint-Cyr, le père et la mère, Guy et Monique, qui étaient des aventuriers au long cours dans les années 60-70 et qui se sont pris de passion pour les volcans en découvrant le volcan de Stromboli en Italie. Et qui ont décidé, avant de décider, d'en faire un métier au début des années 80, en emmenant avec eux des voyageurs intrépides. Donc, ils ne se limitaient plus à eux seuls, mais emmenaient quelques personnes. Ça a commencé par l'Italie. Et le concept est né, en fait, autour de ces premiers voyages. Et la marque Aventure et Volcan, l'agence, a été créée en 1983, donc par Guy Monique et Tanguy, le fils de Guy et Monique, qui lui-même est tombé dans le chaudron de la passion des volcans. Et donc c'est une agence qui depuis a beaucoup grandi. Au début, elle ne proposait que les volcans du sud de l'Italie, et maintenant on se balade un peu partout dans le monde sur tous les volcans en activité. Et l'agence aura donc 40 ans l'année prochaine, donc ça commence à faire déjà une belle vie entrepreneuriale au service des passionnés de volcans.
Et qu'est-ce qui vous passionne dans les volcans et depuis quand ?
Alors, ce qui nous passionne, c'est le phénomène à plusieurs... c'est multisensoriel, c'est à la fois un phénomène qui est très spectaculaire visuellement. Il n'y a pas beaucoup d'autres phénomènes naturels sur Terre qui ont une telle intensité visuelle avec des couleurs très différentes, de jour comme de nuit, et qui sont évidemment particulièrement impressionnants. Mais il y a aussi tout l'aspect sonore qui va avec, qui est très important, et l'aspect olfactif, donc les odeurs. Donc c'est vraiment tous les sens qui sont mis en action à chaque fois qu'on a la chance de découvrir un volcan. Donc très souvent, quand on commence à s'y intéresser un petit peu, on tombe un peu dans la drogue de vouloir y retourner en permanence, tellement c'est beau et changeant à chaque nouvelle éruption. Et je pense qu'on a tous ici un peu ce virus de l'observation du volcanisme. Voilà ce qui nous passionne. Donc en plus d'être passionné par le fait de nous les voir, évidemment, on aspire à transmettre cette passion à nos voyageurs et à essayer de les amener dans cette grande famille des passionnés de volcans. Il y en a beaucoup qui sont devenus des clients très très fidèles, qui sont partis des dizaines de fois avec nous depuis très longtemps et qui repartent quasiment chaque année.
D'accord. Quel type de volcan faites-vous visiter ?
Alors tous, quand les gens tapent à notre porte, c'est principalement pour voir des volcans en éruption. Donc c'est pas la majorité. Sur l'ensemble des volcans du monde, il y en a que quelques pourcents qui sont en activité éruptive. Les autres dorment ou sont éteints. Mais donc on vient d'abord chez nous pour voir des volcans en éruption. Et ensuite, à côté de ceci, on va évidemment profiter du fait d'être dans tel ou tel pays pour voir les autres volcans, donc pas se limiter uniquement à ceux qui sont en activité, mais aller voir tous les autres reliefs volcaniques qui sont souvent tout aussi majestueux, même s'ils sont endormis, et aussi voir tous les petits phénomènes annexes, ce qu'on appelle les phénomènes géothermiques, donc ça peut être des sources chaudes, des jets de vapeur, des geysers, des mares de boue brûlantes, ou parfois des cristallisations de soufre. On a comme ça tout un tas de phénomènes qui sont visuellement exceptionnels et complètement hallucinants en termes de couleurs, qui sont aussi des phénomènes volcaniques et qui vont donc enrichir la palette de ce qu'on va voir. Mais tout d'abord, vraiment, notre spécialisation et la raison pour laquelle on est reconnu dans le monde du voyage, c'est vraiment pour aller sur les volcans qui sont en éruption. Donc on voit quasiment, je ne vais pas dire tous les volcans, mais tous accessibles, en tout cas on essaie d'aller les voir.
Et est-ce que c'est plutôt dangereux ou pas ?
Alors oui, mais on fait en sorte de mettre en place toutes les mesures de sécurité pour éviter qu'il y ait des accidents. Jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait presque 40 ans qu'on fait ça, on a fort heureusement jamais déploré de victimes sur les volcans. On a déjà eu des gens qui ont été blessés, mais c'est souvent des blessures bénignes. Souvent, c'est même pas lié au volcan lui-même, ça peut être simplement une chute tordue ou malheureusement un bras cassé quand on comme un accident en montagne. Mais on met vraiment en place toutes les mesures de sécurité. La toute première, c'est déjà que nous, on aille sur place avant d'amener des clients pour voir un peu le terrain, le reconnaître, savoir comment le volcan se comporte. Et ensuite, seulement quand on connaît bien le terrain, avec l'aide de guides locaux, on va pouvoir décider d'amener d'autres gens avec nous, des touristes français, enfin francophones, et qui vont être équipés. Dans beaucoup de cas, on va les équiper avec des casques de protection, des lunettes de protection, parfois des masques à gaz, parce que c'est des environnements qui sont assez toxiques, assez souvent, et puis toujours en gardant une distance de sécurité qui va être évalué par le guide. Donc on essaye de toujours aller jusqu'à la limite, mais de ne jamais dépasser la limite. Et parfois, c'est pas évident d'arriver à juger de où va se trouver cette fameuse limite. Mais pour l'instant, on a plutôt bien géré, puisque comme je vous le dis, on a ramené tous nos clients à la maison.
Et du coup, lors justement de ces expéditions, est-ce que vous en profitez pour faire des relevés, pour aider les scientifiques, etc.?
Alors ça peut arriver, parfois c'est involontaire, c'est-à-dire qu'on va être sur le terrain, observer une éruption, alors que les scientifiques, eux, ne sont pas là, parce que soit ils sont au laboratoire, soit ils sont sur un autre site plus loin. Et à ce compte-là, on va être interrogé par les scientifiques qui vont vouloir savoir un petit peu ce qu'on a vu, éventuellement récupérer des photos, avoir des explications ou des témoignages de ce qui a été observé. Donc ça, c'est le premier genre de situation, ça arrive assez régulièrement. Et puis la deuxième situation, qui est plus rare pour le coup, c'est carrément d'être partie prenante de mesures sur le terrain. Ça, c'est très rare parce que évidemment les volcanologues, bah, ils font ce travail eux-mêmes et ils sont en général assez nombreux pour le faire. Mais dans certains cas, on l'a eu fait plusieurs fois, notamment dans les îles éoliennes en Italie, où on a fait des groupes dans lesquels on avait l'intervention d'un géologue ou d'une géologue qui allait en profiter pour à la fois expliquer le volcanisme et en même temps faire des prises de mesures. Je sais pas, des prises de mesure de température de gaz ou de composition de gaz en compagnie des groupes de clients d'Aventure et Volcan. Donc comme ça permet de lier l'agréable à l'utile, à la fois d'être sur le terrain pour les clients, de comprendre comment fonctionne un volcan et en plus de jouer un peu aux apprentis volcanologues. Mais ça reste assez rare parce que le matériel qui est utilisé en volcanologie est extrêmement coûteux, il n'est pas facile à manipuler et on peut pas laisser n'importe qui faire ça. Donc ça reste quand même un domaine qui est quand même à part du tourisme volcanique.
Et est-ce que vous avez beaucoup de clients?
Alors beaucoup, ça dépend à qui on se compare. On est une toute petite agence, hein. Comme on fait vraiment ce qu'on appelle un tourisme de niche, c'est-à-dire qu'on va aller uniquement sur certains pays et sur certains volcans de certains pays. Donc on a vraiment finalement une offre de voyage qui est assez réduite par rapport à des agences de voyage d'aventure qui proposent le monde entier. Donc du coup, ça veut dire que les gens qui viennent chez nous sont des gens qui veulent voir des volcans en activité, donc ils sont assez peu nombreux par rapport à la totalité des Français qui partent en voyage aux quatre coins du monde chaque année. Il y en a quand même assez peu qui ont pour objectif de voir un volcan en éruption. Donc on en a assez peu. Avant le Covid, parce que maintenant la période elle est évidemment un peu particulière, mais avant le Covid, on avait à peu près 1 millier de voyageurs par an. Voilà, c'est à peu près le nombre de personnes qu'on faisait voyager, entre 900 et 1 000 personnes chaque année sur les différentes destinations. Donc ça reste beaucoup pour nous, à l'échelle du tourisme français, c'est évidemment très très peu.
Et donc, selon vous, comment faire pour que les gens ils s'intéressent plus aux volcans?
Ah, bonne question. C'est la question qu'on se pose chaque année pour essayer de faire venir de nouveaux voyageurs, hein, en quête de découvertes. Bah, le meilleur moyen aujourd'hui, il y a quelques années, je vous aurais dit, bah, c'est de faire des salons, de déplacer dans des librairies, de donner des conférences, etc. Là, évidemment, bah, c'est Internet, hein, qui est devenu l'outil de communication principal. Et ce que l'on fait assez régulièrement, c'est qu'on va tourner des reportages, soit avec des chaînes de télévision, soit avec des youtubeurs, sur certains volcans qui sont très spectaculaires. Et puis on va utiliser ce matériel vidéo, enfin le montage du reportage par ces communicants pour ensuite bah, aller le diffuser sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet et essayer de faire le maximum de bruit autour de cet événement. Bon, typiquement, il y a 15 jours maintenant, il y a un beau reportage sur YouTube qui est sorti sur le Grand JD, qui présente la descente dans un cratère au Nicaragua de toute une équipe de voyageurs, directement dans le cratère avec une tyrolienne pour aller au plus près d'un lac de lave en activité. Et ça, c'est vraiment une communication qui nous a permis d'aller toucher des centaines de milliers de personnes qui n'imaginaient même pas que ce genre de choses était possible. Donc c'est par ce biais-là aujourd'hui, donc de l'image spectaculaire, principalement par Internet, qu'on arrive à aller capter l'attention d'autres personnes. Et puis dans d'autres cas, ça peut être des choses beaucoup plus pédagogiques ou scientifiques. Ça peut être des reportages, comme on a déjà eu le cas l'occasion de le faire avec Le Monde de Jamy, que vous connaissez peut-être, qui est une émission qui passe sur France Télévisions. Et on a tourné avec eux plusieurs reportages qui nous ont permis de nous faire connaître auprès d'un public encore plus large.
D'accord. Et du coup, la dernière question qui est, quel est votre volcan préféré?
À moi en particulier,
Oui.
alors bah, co comme beaucoup de gens, enfin pas tous, mais comme la plupart des passionnés de volcans, en général, celui qu'on va préférer, c'est le premier qu'on aura vu en activité, bah parce que c'est celui qui est le plus marquant et en général, c'est celui-ci qui donne envie ensuite d'y retourner. Donc moi, c'est l'Etna en Sicile, parce que c'est le premier que j'ai vu il y a maintenant une vingtaine d'années en éruption. J'étais pas bien vieux à l'époque, hein, j'étais tout juste majeur. Et voilà, ça a été un vrai déclenchement, un vrai coup de foudre. Et puis le gros avantage en plus, c'est qu'il n'est pas très loin de chez nous. Alors c'est tout relatif, mais enfin, en 2 heures d'avion à peine, on peut se retrouver au pied de ce volcan. Et donc par conséquent, ça permet, quand on a un peu de temps et un peu d'argent et de disponibilité, de pouvoir se déplacer très vite pour aller l'observer quand il est en éruption, ce qui arrive chaque année en plus. Donc ce serait l'Etna.
Il y a peut-être 5 ans maintenant, j'ai réalisé une interview d'André de Maison qui accompagnait les crafts sur les
Eh
volcans. Et André m'avait dit à quel point, en fait, c'était selon lui très important que les gens aillent sur les volcans en activité, qu'ils aient pas peur de tenter cette expérience-là, parce que pour lui, ça avait vraiment été quelque chose qui avait changé sa vie et sa vision de, bah, du monde.
ouais, clairement, hein. Oui, je pense que, enfin, alors toutes les âmes ne sont pas, n'ont pas cette sensibilité-là. Il y a des tas de gens qui vont voir un volcan, cocher cette expérience dans leur vie et puis passer à la suivante.
Oui.
Bon, mais malgré tout, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement marquant parce que ça ramène l'humain à son échelle qui est quand même pas très grande. Et puis qu'on a en direct souvent ce que l'on nous a expliqué avec plus ou moins de difficultés à l'école, au collège ou au lycée sur bah, les forces qui sont à l'œuvre au sein de la planète Terre et qui sont assez gigantesques. Donc il y a tout ça et puis il y a vraiment ce que je disais au début de l'interview, cet aspect multisensoriel. Je pense pas qu'il y ait d'autres phénomènes sur Terre comme ça où on ait vraiment toutes les sensations qui soient mises en action sur un temps relativement court finalement. Et puis toujours évidemment cette petite décharge
Eh
d'adrénaline,
oui.
même si tout le monde rentre vivant heureusement de nos voyages, mais il y a quand même toujours cette petite dose d'adrénaline qui est liée au fait qu'on ne sait jamais vraiment comment les choses vont tourner. C'est ça aussi qui est dingue avec le volcanisme, c'est qu'on a toujours cette incertitude de l'instant à venir, de pas trop savoir comment ça va se passer. Donc je pense que c'est aussi ça que viennent chercher les gens chez nous.
Bah, merci beaucoup pour
Merci
vos
beaucoup.
réponses.
Mais je vous en prie.
Merci beaucoup à vous tous. Découvrons maintenant dans la chronique D comme Dimitri ce qu'est le carburant de synthèse.
Bonjour à tous. Faisons un tour dans le futur proche. On peut l'énoncer comme Goscinny et Uderzo, les auteurs d'Astérix. Nous sommes en 2030 après Jésus-Christ. Toutes les automobiles sont converties à l'électrique. Toutes? Non. Un petit bataillon de moteurs thermiques résiste encore et encore aux aimants et aux accumulateurs. Leur secret? Le carburant de synthèse. On peut se demander ce que c'est, comment ça marche, si c'est vraiment écolo, et on va tout de suite y répondre. Premièrement, qu'est-ce qu'un carburant de synthèse? Il s'agit d'un carburant qui n'est pas du tout issu du pétrole et qu'on peut produire avec du sucre contenu dans les betteraves que l'on fait fermenter pour produire de l'éthanol, dans le cas des carburants de première génération, ou encore on peut récupérer des résidus agricoles, de la matière organique non utilisée pour la transformer en carburant, pour ceux de la deuxième génération, ou encore des microalgues chez la troisième génération. On peut aussi en produire grâce au CO2 capté dans l'atmosphère ou les cheminées des usines ou centrales thermiques. Ces procédés sont prometteurs sur le papier et on verra le pour et le contre plus tard. D'autant plus que ce procédé ne date pas d'hier. Il faudrait remonter à l'époque de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Je reconnais que l'Allemagne à cette époque est tristement célèbre pour des événements bien connus de tous, avec un chef d'État très controversé, mais ils ont notamment développé une technique de production qui transformait le charbon en hydrocarbures liquides n'ayant pas de pétrole ou de gaz naturel. C'est le procédé de Fischer-Tropsch qui fut notamment utilisé en masse dans les véhicules de transport ou blindés. Puis, dans les années 50 et 60, ce fut l'Afrique du Sud qui s'intéresse alors à cette solution technique innovante. En raison de l'apartheid, l'ONU a imposé d'importantes sanctions économiques, raison pour laquelle ce pays se devait de trouver une alternative au pétrole dont il fut privé. L'avantage principal du carburant de synthèse, c'est d'être quasi aussi neutre en émissions qu'une voiture électrique. Car certes, on ne réduit pas les émissions de CO2, non là, mais on le fait rentrer dans un cycle carbone. C'est-à-dire que le CO2 émis peut être réutilisé pour produire du carburant qui va être consommé dans la voiture, bouclant ainsi la boucle. L'autre avantage, c'est de ne pas nécessiter de changer les infrastructures, car on peut directement remplacer l'essence fossile par de l'essence de synthèse dans les stations-service. C'est beaucoup plus simple que de développer et d'installer des bornes électriques à la fiabilité douteuse, notamment avec la panne Ionity, qui fut un peu récente. Et pour le cas des véhicules dits « flex fuel », on n'a pas besoin de conversion nécessaire, car ils sont prévus pour rouler avec n'importe quelle essence, fossile ou synthétique. De plus, on ne mettra que ce qui brûle parfaitement, donc pas besoin d'autres additifs et solvants dangereux pour la santé. Et on annonce même une baisse de particules fines et d'oxyde d'azote de l'ordre de 50%. Grâce à ces carburants de synthèse, même un moteur plus ancien pourra répondre aux normes modernes, aux critères stricts. Cependant, le bilan écologique dépend beaucoup du mode de production et du type d'énergie utilisée pour l'électricité, fossile, renouvelable ou nucléaire. La plupart des constructeurs se sont intéressés, et surtout les constructeurs allemands, comme BMW, en collaboration avec Prometheus Fuel, qui conçoit un prototype dans lequel une solution aqueuse ou du CO2 est dissous et soumise à une plaque de cuivre sous tension, ce qui a pour effet de recombiner les atomes d'hydrogène et de carbone. Porsche, quant à lui, cherche avec son e-fuel à produire du carburant en prélevant du CO2 directement dans l'air et en le combinant avec de l'hydrogène issu de l'électrolyse de l'eau, avec une usine de production basée au Chili et alimentée en électricité grâce à des éoliennes. Chez Audi, les batteries ont la vedette. En partenariat avec la société américaine Joule, le procédé consiste à produire de l'éthanol ou du diesel grâce à des cyanobactéries génétiquement modifiées pour combiner le CO2 récupéré de cheminées d'usine et l'hydrogène de l'eau afin de créer un carburant écologique. Chez les pétroliers, l'avis est un peu mitigé. Certains y voient une concurrence avec leur pétrole, tandis que d'autres l'envisagent comme une piste intéressante. En fonction du marché, ils seront plus ou moins capables de s'adapter. Aujourd'hui, le carburant de synthèse, encore au stade de recherche, coûte 5 euros le litre. C'est certes élevé, mais en 2027-2030, on prévoit alors de le vendre à 1 euro le litre. On imagine que, grâce à un potentiel écologique très prometteur, on pourra bénéficier d'une TICPE, taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, probablement raisonnable. Pour conclure, les carburants de synthèse prouvent que le moteur thermique n'est pas encore mort. Il n'est pas polluant en soi et ça dépend fortement de ce qu'on y met dedans, un peu comme un pistolet et des balles blanches. L'électrique ainsi que le thermique sont complémentaires et l'un ne pourra jamais prendre le dessus sur l'autre. Ça dépendra fortement des consommateurs.
Merci beaucoup Dimitri. Très chers auditeurs, Retour en air est à présent fini. Nous nous retrouvons très vite dans un prochain magazine sur le lycée vert avec des interviews exclusives.